La main,
Non, non, fais pas, marche.
Voilà, je vous invite à vous installer, à finir de vous installer.
Non.
Voilà, nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Merci Père pour le privilège de pouvoir librement nous retrouver pour nous pencher dans ta parole. Et Père Céleste, nous te prions que nous puissions laisser peut-être les préoccupations de la journée et être disposés à méditer, à sonder ta parole. Merci de ta présence et merci de chacun qui a pu venir ce soir. Amen. Voilà, nous sommes donc contents de nous retrouver. Est-ce que tout le monde a fait son petit devoir de lire le chapitre 12 d'Apocalypse? Alors, si vous ne l'avez pas fait, vous allez vite savoir de quoi il s'agit. Cela fait partie des grands sujets sur la prophétie biblique. Il y a des passages très connus, évidemment, qui peuvent être sujets à toutes sortes d'interprétations. Et ce sont, il faut le reconnaître, des thèmes assez compliqués parce qu'ils sont très condensés, tout n'est pas développé dans le détail ni dans la réalisation, et il y a bien des choses que l'on suppose, et donc on le verra quand les temps seront là pour voir ce que ça voulait dire vraiment dans le détail. Mais dans le chapitre 12 d'Apocalypse, nous parlons là d'un grand événement, un grand signe paru dans le ciel, une femme enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail, dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. La queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lançant de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Voilà un petit peu ce qui se passe dans ce chapitre 12 qui nécessite quelques éclaircissements. Alors je ne sais pas ce que vous avez saisi, il y a plusieurs personnages. Certains ont compris de qui il s'agit. Le premier personnage qui est simple et clair, sans ambiguïté, c'est le dragon. Le dragon qui en fait est Satan. Le verset 9 nous donne plusieurs noms. Hein. Alors il y a beaucoup de noms dans la Bible sur Satan, sur le diable. Donc vous connaissez un petit peu l'origine des mots. Satan signifie littéralement adversaire. Diable signifie accusateur, calomniateur. Donc ce sera particulièrement utile de développer ce point. Donc il est appelé le tentateur dans Matthieu par exemple, l'ennemi, le chef de ce monde, le dieu de ce siècle, méchant, etc. Donc voilà, c'est quelque chose, ce sont différents noms. Le père du mensonge aussi, hein. Et c'est Jésus-Christ dans Jean 14, 30 qui l'appelle expressément le chef de ce monde. Alors, ce qui sera intéressant de savoir, c'est que fait ce dragon, que se passe-t-il? Et il y a évidemment une activité constante de Satan pour s'opposer à Dieu et à tous ses plans. Donc la terre est l'endroit vraiment où, en tant que prince de ce monde, il s'oppose à Dieu et il accuse les hommes. Alors, nous savons aussi que par sa mort, Christ a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et dans Hébreux 2, 14, il nous est bien expliqué qu'il délivre de la ceux qui, par crainte de la mort, étaient assujettis à la servitude. Donc, nous découvrons que, et c'est le message de l'Évangile, que Christ, par sa mort et sa résurrection, est placé dans une situation de vainqueur. Placé dans une situation donc de victoire totale, il est assis dans les lieux célestes et que la puissance du diable ne peut rien contre le chrétien à partir du moment où il est en Christ. Cependant, même si nous sommes chrétiens, nous allons être encore assujettis à la mort. Donc, il y a un autre principe dans la Bible qui montre bien que tout ce qui a été acquis par Christ n'est pas encore réalisé, bien que ça nous appartienne. Et in fine, même la mort, eh bien, son emprise sur nous sera évaporée, puisque nous sommes appelés même à ressusciter corporellement. Donc, la victoire, nous l'avons. Mais pour le moment, nous grandissons, nous vieillissons, nous mourons, alors que Christ, il est bien dit, a vaincu la mort à la croix. Donc il y a ce qui est déjà acquis et ce qui n'est pas encore réalisé. La grande question théologique qui se pose, nous avons lu que le diable a été précipité du ciel. Et il ne se trouverait plus au ciel. Alors, quand cela a-t-il eu lieu? Est-ce dans le passé? Est-ce un événement à venir? Et bien sûr, nous allons regarder d'un peu plus près ces éléments pour essayer de mettre tout un peu dans l'ordre. Alors, il y a deux personnages qu'il faut définir, l'enfant et la femme. Alors, l'enfant à naître, vous savez qui il est. Qui est-ce? C'est Christ. Mais comment le savons-nous? Quel est le détail qui nous montre que c'est Christ? Il est enlevé au ciel. Oui, on peut... bien que nous ne sommes pas enlevés au ciel encore, lui il est enlevé au ciel, Et aussi, le qualificatif tout particulier, c'est lui qui doit paître les nations. Et il y a un psaume qui parle de cela. Vous le connaissez, ce psaume ? Psaume 2. On peut regarder ce psaume, qui est un psaume absolument remarquable, s'agissant de la prophétie sur Christ. Le psaume 2. Voilà, où il est dit que de verset 8, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte. Et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Voyez, donc il s'agit bien de Christ qui est appelé à régner. Alors la lecture la plus logique que l'on peut avoir de l'ensemble de ces événements, c'est ceci, c'est que Christ est né il y a 2000 ans. Ça c'est vrai. Cet enfant, à peine né, est menacé d'être dévoré. Donc là, ça fixe bien historiquement ce qui s'est passé quand Hérode a voulu massacrer tous les enfants de moins de 2 ans. Et puis, il n'y est pas arrivé. Il n'y est pas arrivé. Et là, le dragon, le diable, va continuer à s'opposer à la postérité de la femme, va continuer à s'opposer aux croyants, et il va arriver un moment où, précipité du ciel, sachant qu'il a très peu de temps, va intensifier son activité, ça sera une période future de grande tribulation. Et nous devons maintenant regarder qui est cette femme. Parce que beaucoup de confusions sont venues car tous les chrétiens n'ont pas la même lecture de la nature de la femme. Alors vous avez l'Église catholique qui pense que la femme c'est Marie. Alors, dans un sens, au premier degré, c'est vrai. C'est elle qui a enfanté. Donc Marie est la femme, mais comme il y a une couronne avec des étoiles, l'Église catholique la considère comme la reine du ciel. Donc là, on part sur autre chose, une autre identité, qui est d'ailleurs une divinité babylonienne et qui était adorée. Et quand vous lisez Jérémie, vous voyez, Jérémie 7, je crois, vous voyez que la reine du ciel était une idole qui influençait très négativement le peuple de Dieu. Donc, il est vrai que cette femme, Marie, n'a pas connu, de tout ce que l'on sait de sa vie à elle, n'a pas connu cette fuite dans le désert et tout ce qu'on dit d'elle. Et cette femme, évidemment, à un moment donné, c'était Marie qui a donné naissance à Christ, mais Marie elle-même, qui va fuir dans le désert, à qui on va donner des ailes, etc. Cette femme, c'est plus que Marie. La deuxième interprétation serait que la femme serait l'Église. Et pourquoi parle-t-on de l'Église ? Parce qu'en fait, en raison des douleurs de l'enfantement. Alors on souligne souvent le verset de Galates 4,19. J'ai eu des discussions interminables avec des chrétiens qui sont convaincus que c'est l'Église, parce que dans Galates 4,19, que lisons-nous ? « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Donc, l'Église forme Christ dans le cœur des gens. Vous voyez ? Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, Ça semble, oui, c'est vrai, mais en fait, ce n'est pas l'Église qui est en douleur. Là, c'est Paul qui parle en tant que serviteur, c'est un individu, ce n'est pas c'est pas l'Église. Et pourquoi ce n'est pas l'Église? Bon, on a rapproché le mot enfantement, c'est juste une similitude d'illustration, mais nous voyons dans la Bible que bien souvent, l'enfantement est lié à l'histoire d'Israël. Alors, il y a quelques passages que je voudrais vous donner. Ésaïe 26, verset 17-18, et la désobéissance du peuple de Dieu est devenue une douleur d'enfantement. Vous voyez ? Ésaïe 26, comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, se tord et crie au milieu de ses douleurs, ainsi nous avons été loin de ta face. Donc, vous voyez, on peut faire des rapprochements d'enfantement autres que Paul le fait parce que, il considère les nouveau-nés spirituels comme des enfants en Christ et il en souffre. Hein. Acte 20 nous dit bien qu'il a enseigné avec larmes chacun de ses enfants. Hein. Donc c'est. Voilà. Et en fait, là nous voyons qu'il s'agit bien. Du peuple d'Israël, nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent, le pays n'est pas sauvé, et ses habitants ne sont pas nés. Vous avez Michée 4 aussi, qui est très intéressant, versets 9 et 10. Pourquoi maintenant pousses-tu des cris? N'as-tu point de roi, plus de conseiller, pour que la douleur te saisisse comme une femme qui accouche? Fille de Sion, souffre et gémis comme une femme qui accouche. Donc on voit là aussi. Qu'il s'agit d'Israël. Hein. De plus, dans le Nouveau Testament, j'ai remarqué que l'image de l'enfantement est employée à d'autres endroits pour d'autres choses. Hein. Par exemple, 1 Thessaloniciens 5, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Donc là, c'est un autre contexte. Et quand on met tout ensemble, et on lit bien le chapitre 12, on s'aperçoit que ce n'est pas l'Église qui enfante Christ, mais c'est Christ qui bâtit son Église. Et quand il était sur terre, il dit, c'est quelque chose qui n'existe pas encore, puisqu'il dit, je bâtirai mon Église. Donc la naissance de l'enfant qui est Christ précède ce qui serait supposé être sa mère. C'est pas possible. Donc ce n'est pas du tout l'Église. Hein. Donc l'Église est l'épouse de Christ, mais pas sa mère. Hein. Après, cette femme, évidemment, elle est présentée avec quelques éléments symboliques très forts. Il y a le soleil, la lune et des étoiles. 12 étoiles. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Voilà. Mais dans la Bible d'abord. Dans la Bible. C'est le songe de Joseph. Alors, c'est très étonnant parce que Joseph a un songe concernant ses parents et ses frères. Et il est question, donc, dans Genèse 37, versets 9 et 10. Donc il raconte ce songe. J'ai vu un songe, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. En fait, il s'agit de sa famille qui plus tard vont se trouver devant lui parce qu'il est devenu celui qui va nourrir toute la famille. Évidemment, il raconte cela à son père et ses frères. Son père le réprimande. Il dit, mais quand même. Et il lui dit, que signifie ce songe? Est-ce qu'il faut que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner devant toi? Donc ils ont bien appliqué le songe, la vision, à vraiment toute la famille de Joseph. Et nous voyons que toute cette famille compose les racines et le socle du peuple d'Israël. Alors, la clé d'interprétation biblique, c'est de faire des parallèles qui sont dans la continuité et de rapprocher, parce que parfois un texte va en éclairer un autre. Donc, par cela, nous pouvons dire, et cela va expliquer beaucoup d'autres choses qui se déroulent dans ce chapitre, si nous prenons comme point d'interprétation la femme, c'est Israël.
Alain ?
Oui. Voilà. Mais tout à fait, tout à fait. Et il y a des passages là-dessus. Par exemple, Romains 9:3. Je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères selon la chair, c'est-à-dire pour les Juifs, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, à qui appartiennent la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu Jésus-Christ. Donc là, la Bible précise, Christ est issu, il vient d'Israël. Voyez ? Donc, et là, nous voyons aussi une concordance dans la pensée. Hein. Vous avez aussi 2 Timothée 2:8, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David. Et, voilà, donc là, les. Donc, signifie l'origine. Hein. Et Jésus-Christ lui-même déclarera, dans Jean 4, le salut vient des Juifs. Donc, lui, il se présente comme le salut. Il vient des Juifs. Donc, c'est les Juifs, c'est Israël, qui non seulement a donné la Bible au monde, mais par lequel aussi est arrivé Jésus-Christ. D'abord un enfant menacé de mort par Hérode. Alors, il est enlevé, cet enfant est enlevé vers Dieu et vers son trône. Et il va paître les nations. Paître les nations, on va le laisser de côté ce soir parce qu'on fera une soirée sur le millénium et le règne de Christ lui-même. On va laisser cela de côté parce que c'est très riche, ça nous amènerait trop loin. Là, il est enlevé vers Dieu. C'est ce qu'on appelle tout simplement l'ascension. Hein? L'ascension. Et vous avez le psaume 110, verset 1. Est-ce que quelqu'un se souvient de ce... C'est un passage à connaître, hein, si l'on veut montrer la divinité de Christ. Il faut de suite... Ah, psaume 110, verset 1. Et surtout si vous étiez amené à parler à un juif. C'est très intéressant, parce que il est parlé de parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alors cette prophétie, elle est d'autant plus intéressante pour deux raisons. D'abord, c'est le passage que le Seigneur utilise pour que les chefs religieux réfléchissent sur l'identité de celui qui est devant eux. En posant une simple question, vous croyez que le Messie viendra? Oui, 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 pas de problème. Mais alors, de qui est-il le Fils? Alors, j'ai dit, mais c'est le Fils de David. Alors si c'est son Fils, pourquoi l'appelle-t-il son Seigneur? Parce que tous les chefs religieux connaissent le psaume 110 par cœur. Si c'est son fils, pourquoi l'appelle-t-il Seigneur? Vous voyez? Et là, la Bible dit, ils n'ont pas su quoi répondre. Et la deuxième raison pour laquelle ce passage est intéressant, c'est que nous retrouvons la pensée qu'on a dit tout début, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc il y a un délai entre l'accomplissement de l'œuvre souffrante du Messie, sa mort et sa résurrection, qui est la base à la fois de la rédemption pour les Juifs et pour l'humanité, et la réalisation de la victoire effective sur les ennemis qui deviennent son marchepied, où les ennemis sont écrasés, ce qui, de toute évidence, n'est pas encore le cas. Donc il y a même pour le Seigneur un temps d'attente avant de déployer ce qui est préparé quand il est venu la première fois. Donc il fut enlevé loin de la portée du dragon. Alors à partir de ce moment-là, quand Christ est enlevé, quelle est la cible de Satan? La cible de Satan, elle est toujours, alors c'est toujours le peuple juif, ça l'était même avant. Hein, on a fait toute une soirée sur l'antisémitisme, vous vous souvenez, Et cela va continuer, et en 70, ça tombe très fort hein, sur cette femme, puisque le temple est détruit, les juifs sont dispersés, et vous avez deux précisions au verset 17 sur ceux qui gardent les commandements, les juifs, et ceux qui ont le témoignage de Jésus, tous les convertis, les chrétiens, et ceux qui accepteront le Seigneur dans la grande tribulation, et qui se tourneront vers Christ quand l'Église sera enlevée et quand paraîtra l'impie. En fait, c'est toujours le même programme, avec plusieurs paliers. La persécution de la femme, de l'enfant, de la postérité de la femme, nous sommes en quelque sorte un élément, même les croyants aujourd'hui, nous sommes des éléments de la postérité de la femme. Un jour, l'Église partira. Après cela, la précipitation, le diable va être chassé du ciel. Et nous allons voir, mais comment se trouve-t-il au ciel? Alors là, je vous avoue que c'est quelque chose d'assez mystérieux, que j'ai toujours eu du mal à imaginer, mais comme c'est écrit dans la Bible, je l'accepte. Vous vous rendez compte que dans la liberté que Dieu donne au diable, il lui permet de venir parler en sa présence. C'est assez incroyable que le diable peut avoir audience devant Dieu pour lui parler. Oui. Mais oui, mais c'est comme ça qu'on le sait d'ailleurs. Très bien, c'est ça. C'est pas nouveau, non. Mais on le sait justement aussi par Job, par l'histoire de Job. Et donc le diable, l'accusateur, a une audience auprès de Dieu.
Ça demande aussi la justice parfaite de Dieu.
Oui, parce que
lui l'admet est contradicteur.
Le procureur général.
C'est comme dans une cour humaine, hein. Si tu n'admets pas les contradicteurs, la justice est quelque part est biaisée. Mais là, si tu admets la contradiction, je pense que ça démontre, bon, ça n'explique pas le mystère, mais ça montre là, vraiment que Dieu est un Dieu juste.
Mmh. Oui, parce qu'après, il faudra, pour ceux qui sont accusés, il faudra un avocat. Ouais. Et un avocat qui va plaidoyer, qui va aller très loin, parce que tout avocat de ce monde aujourd'hui, bon, plaidera, mais il ne va pas plaider au point de dire « Mais t'inquiète pas, de toute façon, tu n'iras pas en prison, et si tu es condamné, j'irai à ta place. » Bon, là, ça serait le comble du sacrifice pour un avocat. Mais on ne va pas jusque-là. L'avocat, il s'arrête juste avant, quand même. Mais alors, c'est très étonnant, parce que là, nous avons un accusateur qui... Alors, pour certains disent, non, il a été précipité du ciel à la croix, donc il n'y a plus d'accusateur au ciel. Et je pense que ce que nous lisons dans Apocalypse 12, il est précipité à un moment donné, ce qui va déclencher un déchaînement total sur la terre pendant peu de temps. Et l'activité du diable qui accuse, qui persécute, qui torpille le peuple de Dieu, c'est comme si c'était plusieurs couches, mais qui s'ajoutent les unes aux autres. Ce n'est pas nouveau que le diable se déchaîne contre les juifs, se déchaîne contre l'Église. Quand l'Église sera enlevée, quand la femme va se trouver pendant une période très courte visée de façon intense, là très courte c'est 3 ans et demi, hein, les expressions 1260 jours, un temps des temps, la moitié d'un temps, etc. Et puis le diable sait qu'il a peu de temps, il va venir sur la terre prendre le contrôle des nations. Et à un moment donné, pendant une partie de la tribulation, va cibler Israël pour le faire disparaître avec l'aide des nations. Et ce conflit d'une intensité incroyable sera stoppé par l'arrivée du Messie en gloire, qui provoquera aussi la conversion du fidèle reste d'Israël qui se tourneront vers celui qu'ils ont percé. Mais je crois que même actuellement, je crois que le diable continue à avoir cette audience. Je ne pense pas qu'il a été précipité du ciel. Parce que d'autres disent qu'il a été précipité du ciel, c'est fini, nous sommes dans le millénium en quelque sorte. Et donc tout est différent. Alors c'est vrai qu'il y a des choses symboliques. Quand la Bible dit sa queue entraînait le tiers des étoiles, on sait très bien qu'une étoile qui est en soi un soleil bien plus grand que la Terre, je ne vois pas comment la Terre pourrait recevoir sur son sol un tiers des grands soleils de l'univers. Même notre soleil, s'il se rapproche, c'est fini la Terre. En fait, là, on voit très bien que quand on voit les autres tournures de phrases, qu'il s'agit d'esprits qui ont suivi le diable dans sa révolte, et ce sont des démons, des anges déchus qui vont suivre dans la rébellion le diable. Vous avez Zacharie 3, où on voit un souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel, et ça, alors il est devant l'ange de l'Éternel, hein. Souvent l'ange de l'Éternel, c'est une expression pour désigner Christ dans l'Ancien Testament, et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Or Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. Et l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui des vêtements sales, puis il dit à Josué, « J'enlève ton iniquité, je te revais d'habits de fête. » Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés, nous est-il dit plus tard. Au moment de la grande tribulation, après l'enlèvement de l'Église, la nation d'Israël qui a donné le Sauveur au monde sera sauvagement attaquée par toutes les nations. Ce qui va provoquer une fuite. Alors, verset 6, vous avez une fuite dans le désert, où elle avait un lieu préparé. Et le diable va lancer un fleuve en espérant que la femme va s'y noyer, mais finalement, elle sera sauvée de ce fleuve. Et il est vrai que, en tout cas, cette histoire rappelle aussi, dès qu'Israël a quitté l'Égypte, le Pharaon s'est déchaîné, a poursuivi la femme dans le désert, Israël dans le désert. Et la grande menace devant, c'était de l'eau aussi. Mais, miraculeusement, il y a eu un passage à sec, là où il n'y en avait pas. Et c'est l'histoire d'Israël, continuellement, qui aura une version encore plus forte à la fin des temps. Alors, là où les commentateurs se demandent, mais est-ce que ça sera littéral ou pas? Israël est installé. On peut imaginer dans le futur que Israël sera de plus en plus isolé. Alors certains disent, mais le désert, c'est simplement le fait d'être une nation complètement isolée par rapport aux autres. Ce qui n'est pas faux aussi. Et de plus en plus, il y aura les gens se positionneront contre Israël. Jérusalem donc et Israël vont être sous la cible du dragon, et puis elle reçoit des ailes du grand aigle, et là aussi c'est perpétuellement, continuellement l'histoire d'Israël. Si vous regardez Deutéronome 32 verset 11, vous avez un magnifique passage où, dans le passé, Moïse dit « Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Voyez ? Et dans le passé, c'est exactement l'image que Dieu a employée pour montrer sa fidélité, pour prendre soin de son peuple. Et au verset 12, l'Éternel seul a conduit son peuple. Donc, c'est la garantie que Dieu va vraiment protéger son peuple. Et il y a, évidemment, dans la grande tribulation, c'est le Seigneur qui va protéger son peuple et qui va stopper la folie des nations et du diable. Maintenant, certains disent, mais peut-être que dans la grande tribulation, parce qu'à un moment donné, nous lisons, je pense à ce passage, je vais le retrouver dans Matthieu 24, vous verrez, donc il parle aux Juifs, vous verrez l'abomination de la désolation dont en parlait le prophète Daniel, assis dans le lieu saint, donc en train finalement de profaner le temple qui sera en place à ce moment-là, alors fuyez. Donc nous avons ça dans Matthieu 24, dans Marc 16, fuyez. Il y aura dans cette grande tribulation peut-être une fuite dans le désert. Alors à ce moment-là, certains le prennent très littéralement. D'abord parce que dans le désert, tout d'un coup, on s'aperçoit que... je n'ai pas déclenché le diaporama pour deux diapos, je les ai là. En plein désert, tout à fait au sud d'Israël, vous avez un immense aéroport international. Dernier cri, inauguré en 2019. Vous voyez, le peuple... La femme reçoit des ailes pour pouvoir s'enfuir. Donc, c'est aussi une façon de aussi ça pourrait être une lecture qui se peuvent se superposer aux autres. Hein. Donc voilà. Et c'est à 19-20 kilomètres d'Elat. Dans toute cette partie, surtout dans le côté est du Jourdain et de l'autre côté de la mer Morte, vous avez Pétra, vous avez beaucoup d'endroits qui sont de vrais refuges. Et ces refuges ont été utilisés dans le passé. Les Esséniens qui ont fui les Romains, la découverte des rouleaux de la mer Morte. Mais pourquoi il y avait tous ces trésors-là? Mais ils se sont enfuis dans le désert. Et ils ont essayé de sauver tout ce qui pouvait être sauvé. Et ce n'est pas une histoire nouvelle. Et c'est quelque chose qui pourrait se reproduire littéralement pendant la grande tribulation. À tel point que des sociétés bibliques ont caché des malles entières contenant des bibles dans les grottes du désert. Pour le temps de la grande tribulation, pour que les Juifs découvrent le message quand ils fuiront. Donc des ailes lui furent données, alors peut-être vont-ils vite partir de Tel Aviv de partout, atterrir à Elat et partir dans le désert le plus vite possible, quand il y aura toutes les armées de toutes les nations qui arrivent sur Israël, conduites par l'Antichrist. Mais vous me dites alors, mais c'est quoi cette eau-là qui menace à nouveau de noyer Israël, de noyer la femme? Vous savez, il existe un grand danger dans le sud d'Israël, en plein désert, c'est la noyade. C'est vraiment la noyade. Là, j'ai un magazine... drame dans le désert, des excursions, et les gens sont morts noyés. Pourquoi? Parce que il y a Alors, c'est vrai, c'est le désert, la température est 50 degrés, c'est sûr. C'est sûr. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il y a des petits ruisseaux qui sont secs, mais qui tout d'un coup, après un temps d'orage, deviennent des torrents incroyables, un peu comme les inondations que l'on a. On voit parfois la télé dans un endroit ou un autre. Et là, cet article parle de 10 adolescents qui ont été tués par les intempéries dans le sud d'Israël. Ils participaient à une randonnée au sud de la mer Morte. Et donc, c'était spectaculaire. Et tout d'un coup, des ruisseaux se sont transformés en fleuves parce que ça arrive très très vite. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Tout à fait. Donc, c'est un phénomène réel dans le désert. C'est quelque chose qui existe. Hein. Voilà, donc, c'est important. Mais ce que l'on peut dire aussi, c'est que, vous voyez, Nous avons cité Deutéronome, on peut citer Exode 19:4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Donc ça, c'est un autre passage qui est très beau. Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte. Donc Israël est tenu encore aujourd'hui par son histoire et par les engagements de Dieu. Et en fait, le processus est toujours le même. Et même si toutes les nations viennent sur vous, et aujourd'hui, même en ce moment, Israël tremble un peu parce que il y a les menaces de l'Iran, de la bombe atomique, tout cela. Il y a très vite, les gens se tournent contre. Hein, on refuse plein de choses ici ou là parce que un tel est juif. Il y a toujours des brimades, des censures, des athlètes qui veulent pas concourir parce qu'il y a un Israélien dans la partie adverse, enfin, plein de choses, voilà. Et donc, c'est déjà assez quand même stressant de vivre ce sachant constamment menacé et sachant que certains pays veulent votre anéantissement. Mais imaginez le moment où toutes les nations décident de concert, nous allons vous anéantir. Et commencer à voir les chars, tout cela. Et vous découvrez que une des réponses sera atomique, parce que vous avez un passage dans l'Ancien Testament où vous voyez tout d'un coup le Seigneur intervenir et la Bible dit que les yeux des gens se putréfient alors qu'ils sont encore dans leurs orbites. Donc c'est un genre d'arme que les prophètes ne pouvaient pas connaître à l'époque. Comment ils ont pu décrire de telles choses? Alors il y aura peut-être il y aura un désert absolument, c'est sûr, relationnel, un désert à tout point de vue, et il y aura peut-être aussi, dans le prolongement de l'exécution de la Grande Tribulation, quelque chose de littéral qui colle assez avec le contexte. Hein. Un aéroport qui est là, il y a les eaux aussi. C'est assez étonnant. Et cette fuite dans le désert, eh bien, le diable peut s'en servir et utiliser les torrents irréguliers d'un lit asséché, se transformer en torrent puissant. Donc, la Bible parle d'un lieu préparé. Elle pourra se réfugier dans un lieu préparé. Alors, c'est comme ça une petite expression au passage. Hein. Ça n'a pas l'air d'être l'essentiel du texte, mais enfin, c'est un lieu préparé. Et quand on médite la Bible, on se dit, bon, quelle que soit la lecture et le degré de compréhension que l'on a du texte, on sait que la femme et la postérité sera un lieu, il y aura un lieu préparé. Ce qui veut bien dire que pour Dieu, Dieu a déjà préparé les choses. Comme dans l'Apocalypse, il est même dit qu'il y a un lieu préparé pour le diable et ses anges. un lieu ardent de soufre et de feu préparé. Donc les choses ne sont pas hors contrôle. Hein? Et c'est quelque chose de très important. Ah, il y a une autre chose que j'ai oublié de mentionner sur la femme. Hein? Vous savez, là, il est parlé de la postérité de la femme et de ce télescopage entre le dragon et la femme. Alors, vous connaissez Genèse 3.15. Genèse 3.15. Il y a quelque chose qui n'apparaît pas dans nos Bibles, et quelqu'un qui parle l'hébreu, comme moi je parle le français, enfin, même encore mieux, parle encore mieux l'hébreu que moi je parlerai le français, mais dans Genèse 3.15, nous lisons cette prophétie sur ce qui va arriver dans l'histoire du monde. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Alors, en hébreu, selon ce que m'a dit cette personne, qui enseigne en hébreu aussi, ce n'est pas du féminin, c'est pas la postérité. En hébreu, alors vous chercherez de votre côté pour avoir peut-être confirmation et plus de détails. Il est dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il t'écrasera la tête. Il. Sous-entendu, l'enfant à naître. Et tu lui blesseras le talon. Il t'écrasera la tête. Donc, il paraît que le... Alors, tous les... Le commentateur, celui qui enseigne donc en hébreu, dit, voilà, tous les traducteurs ont pensé devoir corriger une soi-disant faute du Saint-Esprit. Mais en fait, il paraît que c'est le masculin et que dans la formule hébraïque, cela sous-entend que l'enfant qui naîtrait allait vaincre celui qui avait menacé et la femme et sa postérité. C'est lui, il t'écrasera la tête. Alors, voilà, je vous donne une piste à chercher, parce que c'est aussi très puissant dans ce cas-là. Bon, c'est vrai que Christ est né de la postérité de la femme, qui a d'abord, bon, c'est la femme, après ça a été le peuple, un peuple. Les deux ne sont pas antinomiques, c'est intéressant. Et ce que je voudrais faire en conclusion, c'est laisser une... Quelle est la leçon pour nous? Quand on voit l'histoire d'Israël, ce que Dieu a voulu donner à toutes les nations par Israël, nous en avons parlé aussi, et au sommet de tout, a donné le Sauveur. Alors nous savons, pour toutes sortes de raisons, que... ceux qui gardent le commandement de Dieu, qui est la caractéristique, donc, voilà, même dans le Coran, les Juifs sont appelés le peuple du livre. Hein. c'est pas, on sait que c'est Israël qui a donné la Bible, hein. Et tous ceux qui gardent le témoignage de Jésus, donc sont la cible et seront la cible de cet ennemi. Alors pour nous, nous savons que jusqu'à ce que Christ, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, jusque-là, nous sommes aussi exposés à l'ennemi, que ce soit en tant que juif, Israël, que ce soit nous chrétiens. Et après, quand l'Église sera enlevée, tous les païens ou juifs qui vont se convertir à Jésus, parce que ça ne va pas s'arrêter. Au contraire, l'évangélisation va être vraiment mondiale et beaucoup de conversions se feront avant l'apparition de Christ. Alors, mais jusque-là, nous pouvons être amenés à connaître aussi des formes de désert. Et c'est, nous en avons parlé un peu dimanche aussi, hein, c'est un peu le thème. Hein, il y a ce psaume 92, « Les justes croissent comme les palmiers, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, et ils portent du fruit. » Donc, c'est la vocation de l'arbre. Hein, hein, nous ressemblons, en tant que croyants, à cette double image, le cèdre ou le palmier. Alors le cèdre, lui, c'est sur les hauteurs du Liban. Le palmier, c'est vraiment là où il fait très chaud, dans le creux des vallées et dans le désert. Nous sommes des arbres de la montagne ou des arbres de la vallée. Le cèdre, qu'est-ce qu'il donne ? Ben, il donne ce qu'il est. Ce qui est noble dans le cèdre, c'est le bois. Le palmier, qu'est-ce qu'il donne ? C'est ce qu'il produit, ce sont ses fruits, et donc les dattes. Et donc, dans le désert, dans les pires situations, Dieu accompagne son enfant, il nous porte comme le ferait l'aigle, vraiment porte sa portée sur ses ailes, et nous permet, même dans les moments les plus compliqués, d'être et de faire et de porter du fruit. C'est quelque chose que Dieu cherche. Hein. Et j'aime ce passage, Ésaïe 58, 11. « L'Éternel rassasira ton âme dans les lieux arides. » C'est important parce que c'est aussi un rendez-vous pour Israël. Que Dieu va donner à Israël. Verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin rosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Et puis la suite touche Israël. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Celui qui restaure les chemins. Et aujourd'hui, en Israël, il y a des villages juifs en pleine zone où sont les Palestiniens. Et depuis que des autoroutes, les uns après les autres, sont construits, donc c'est pas des chemins. Voilà, ils peuvent être dans un village, prendre l'autoroute, partir à Tel Aviv, et voilà, progressivement, le pays prend vie un peu partout, grâce aux communications et aux chemins. Une petite illustration pour terminer. Dans Science et Avenir de décembre 2018, j'ai été très interpellé par un buisson qui se trouve au Sénégal, c'est surtout au Sénégal, le Guyera sénégalensi. Sénégalensi. Voilà. Alors, c'est un buisson qui a la faculté de résister aux pires sécheresses, et il a la faculté de partager sa vie, l'eau qu'il a, avec les plantes voisines. Et il diffuse son eau. Si bien que quand on plante un buisson quelque part au milieu d'autre chose, tout autour reprend vie, grâce à lui. Donc, voilà, j'ai cet article, hein, je l'ai pris en photo, je l'ai là. Enfin, c'est étonnant. Il survit au désert, et non seulement il survit, mais il va aider les autres plantes. Alors, c'est un petit peu la trajectoire de tous ceux qui s'attachent au Seigneur, d'Israël d'abord, de l'Église aujourd'hui, d'Israël dans le futur. Qui malgré les, vraiment tout ce qui est hostile et qui n'est pas favorable pour vivre, eh bien, Dieu nous permet non seulement de survivre, de passer ce temps, et aussi de pouvoir être un, voilà, une source d'eau pour les gens autour de nous. Et c'est, je trouve, la leçon spirituelle, qui n'est pas l'explication de la prophétie, mais qui est en complément, je la trouve remarquable. Et quand on reprend le thème du désert, alors c'est absolument merveilleux. Il y a tous ces versets, là, je te conduirai au désert et là je parlerai à ton cœur. Et il est vrai que dans le désert de la grande tribulation, le cœur du peuple d'Israël sera tellement ébranlé qu'ils vont reconsidérer qui est le Messie. Hein, et ça sera un temps à la fois grandiose et assez impressionnant quand ces choses-là arriveront. Est-ce que vous aviez une petite chose à demander ou une question sur ce que nous venons de voir? Alors j'ai voulu essayer d'être un peu panoramique, mais là je pense que nous avons toutes les clés là pour bien lire Apocalypse 12, et la semaine prochaine nous ferons Apocalypse 13 avec ce qui va se passer dans la grande tribulation elle-même. Oui.
À la fin, au verset 17, que le dragon va faire la guerre au reste de sa descendance, donc au reste de la descendance de la femme, et à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent les témoignages de Jésus. Est-ce que cette descendance, c'est le peuple d'Israël converti? Ou c'est directement l'Église, les personnes convertues pendant la tribulation.
Alors, si c'est chronologique, parce que parfois l'Apocalypse n'est pas chronologique, c'est plutôt circulaire, ça. On prend un point, puis on y revient, enfin, il ne faut pas toujours empiler les choses. Hein. On sait que le dragon s'est déchaîné contre l'Église. Une fois que l'enfant a été enlevé au ciel, le dragon s'est déchaîné sur les enfants d'Abraham qui sont les chrétiens. Quoi. Hein? Mais aussi, si dans la grande tribulation, on voit que Israël échappe, dans ce temps spécial, il y aura des gens qui ne reçoivent pas la marque de la bête, on en parlera la semaine prochaine, et qui constitueront aussi ceux qui gardent le témoignage de Jésus, parce qu'il y aura beaucoup de gens qui se convertissent, et il y aura une persécution tous azimuts. Ça sera aussi à ce moment-là, ça pourra être les deux. Oui.
La représentation de la femme telle qu'elle est, avec la couronne de 12 étoiles, les pieds sur une croissance de lune, ça fait penser à deux choses. La représentation d'Isis, qui était une déesse phénicienne, et justement en relation avec la lune, mais aussi la représentation actuelle qu'on peut trouver dans les églises concernant la Vierge.
Oui, ils sont, voilà, ils ont orné la Vierge.
Avec les couronnes d'étoiles.
Voilà, ils ont orné la Vierge parce qu'ils lui ont donné le statut de reine du ciel. Et ça, c'est un titre qui n'appartient qu'à Christ. C'est lui qui est assis sur le trône.
C'est aussi le titre de Isis.
Oui. Ouais, tout à fait. Ben, c'est la source aussi du symbole de l'Europe.
Oui, exactement.
Avec les étoiles et la femme.
Les étoiles.
Tout à fait. Très bien. Eh bien, nous allons terminer peut-être par un petit mot de prière. Gino, je peux te demander de nous conduire à la prière, merci.
Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier. Merci de voir, de nous éclairer sur ces prophéties assez difficiles. Ce qui est merveilleux, Seigneur, c'est de voir que tout se construit par rapport à ce qu'a dit ta parole. Et tout se réalise selon ta parole. Nous te remercions pour cela parce que nous pouvons nous appuyer fermement sur toi. Et nous voyons que tout sera comme c'est déjà écrit depuis longtemps et rien ne pourra faire autrement. Seigneur, nous voulons te remercier aussi de pouvoir nous réunir si librement. Alors que d'autres frères sont persécutés, nous te demandons, nous continuons à prier pour eux et nous te demandons de les garder, de les protéger. Nous te demandons aussi de nous raccompagner et nous te bénissons, Seigneur, pour ces moments merveilleux que nous passerons. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen. Bien, bon retour à chacun.